Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Pénurie de carburant en RDC, il faut rationaliser la consommation pour faire face à la baisse des stocks. C'est l'une des mesures annoncées par le ministre des Hydrocarbures mercredi à la RTNC. Mais l'analyste économique Willy Kalingai estime qu'il faut plutôt révisiter le système de subvention. Conflit intercommunautaire Teke et Aka Kwamout dans le Maïndombe. Le gouvernement doit dans l'urgence déployer et équiper les forces de l'ordre sur place pour stopper l'escalade des violences sur place. Cet appel est de Gary Sakata, député national élu de Kwamout. Il est l'invité de ce journal. Et puis, province du Maniema, les acteurs éducatifs de la province éducationnelle Maniema 1 s'engagent à lutter contre les antivaleurs. Décision prise à l'issue de la réunion de restitution des assises de la revue annuelle des performances nationales 2022, réunion tenue récemment à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Rationaliser la consommation en carburant pour faire face à la baisse des stocks, c'est l'une des mesures phares annoncées par le ministre des Hydrocarbures mercredi à la télévision nationale RTNC. Didier Boudimbou a précisé que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour contenir la montée des prix et assurer la disponibilité des produits malgré la pénurie. Il a par la même occasion appelé les Quinois notamment au patriotisme et à l'amour en pensant aux autres lorsqu'ils viennent s'approvisionner en essence. On écoute le ministre Didier Boudimbou dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Nous étions tous ensemble, moi, mes experts, les agents de la CEP et ceux de la logistique, pour voir comment trouver une solution. La meilleure solution trouvée pour éviter la pénurie du carburant a été de faire une rationalisation, de réduire la quantité servie. À Kinshasa, nous utilisons 1100 mètres cubes de carburant et mazout. Après calcul, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Avec les stocks que nous avons, d'ici le 14 de ces mois, on n'allait même plus avoir une seule goutte de carburant. C'est pourquoi nous avons pris la décision de diviser en donnant 620 mètres cubes par jour. J'insiste en disant qu'il y a du carburant, mais seulement nous avons rationalisé en baissant la quantité. Par manque d'informations, certains ont spéculé qu'il n'y avait plus de carburant. Nous devons être patriotiques comme à l'international. Le carburant est le moteur de la vie d'une personne. Sans carburant, nous ne pouvons pas nous déplacer.
Cependant, l'analyste économique Willy Kalingai estime que rationaliser la consommation en carburant pour faire face à la baisse des stocks n'est nullement la solution. Il estime que cette décision va impliquer un ralentissement de l'activité économique. Par contre, il préconise que soit révisité le système de subvention. Willy Kalingai, joint par Alain Rumushinj.
Non, ça ne peut pas résoudre, c'est un rationnement. Et nous savons que quand il y a une décision de rationnement, il y a immédiatement un ralentissement de l'activité économique. Le carburant, c'est un acteur principal de l'activité économique. En distance de rationnement, ça signifie en réalité, il y a ralentissement. Ça ne va pas résoudre le problème parce que les besoins sont énormes. Nous avons besoin de 1100 mètres cubes par jour, etc. Et ce qui est disponible, c'est simplement 660. Donc, il y a un gap énorme de 550. 50 mètres cubes. Donc, ça ne résoudrait pas le problème. Nous avons un niveau de consommation qui est imposé par le volume d'activité. À long terme, je crois qu'il faut d'abord révisiter sensiblement le système de subvention. C'est un produit subventionné et la subvention augmente d'année en année. Nous en sommes aujourd'hui autour de 50% du prix à la pompe. Il faut multiplier pour pouvoir diminuer la subvention. Il faut augmenter l'offre parce que c'est un secteur qui est totalement fermé. Pour pouvoir rentrer comme importateur des hydrocarbures dans le pays, ce n'est pas du tout facile.
Le gouvernement doit dans l'urgence déployer et équiper les forces de l'ordre dans la province de Maïndombe, précisément en territoire de Kwamout, où les communautés Teke et Aka s'affrontent depuis plusieurs semaines. C'est pour stopper l'escalade des violences qui prend des proportions inquiétantes. Cet appel est de Gary Sakata, député national élu de Kwamout. En attendant, il demande aux différentes communautés vivant sur le plateau de Bateke de privilégier la cohabitation pacifique pour ne pas davantage envenimer ce conflit qui risque d'embraser tout le Bandundu et le Maïndombe. Extrait de ses propos est choisi par Jean-Claude Loki.
Au moment où je vous parle, il y a plus de 1000 personnes qui ont quitté les villages de Menko, Bisiala, Mbunsie, qui se trouvent dans les territoires de Kwamout, ont traversé la rivière Kwango et dorment à la belle étoile dans les villages de Fambondo, de Fasila et de Fatobo sans aucune assistance ni du gouvernement central ni du gouvernement provincial.
Alors moi je demande aux populations vivant le plateau de Bateke dans les territoires de Kwamout, principalement les populations Teke qui sont majoritaires, Yaka qui viennent ensuite, ainsi que toutes les autres populations, il y a les Bangala, il y a les Yansi, il y a les Mbala, de continuer à vivre dans l'harmonie, qui ne se laissent pas manipuler parce que après cette manipulation, ils savent même plus aller au champ, qu'elles se mettent ensemble pour construire le pays et cela fera le bonheur de tout le monde.
Rendons-nous à Beni, au Nord Kivu. Une arme à feu et des articles de commerce ont été retrouvés dans une maison en cellule Kapanga, quartier Mabolio. C'était dans la nuit de mercredi à hier jeudi dans la commune Bungulu. Le propriétaire de ces effets, un présumé militaire déserteur, a disparu dans la nature, indique la police. Face à cette situation devenue répétitive dans cette entité urbaine, le président de la jeunesse dans la commune de Bungulu appelle les jeunes à la vigilance et a dénoncé tout mouvement suspect aux autorités compétentes. Calvin Maliro s'est confié à Marc Marofimbo.
Je voudrais saisir cette occasion pour encore une fois interpeller la conscience de tous les jeunes. Notre commune, depuis un certain temps, devient un endroit où on est en train de ramasser ça et là les armes. Il y a le quartier Mambango où on a ramassé deux armes à feu dans les champs. Ça comptait les cas de menaces sur la population, notamment les mamans. Et nous demandons une fois de plus à toute la jeunesse de pouvoir se mettre en œuvre. L'opération Chunguza Jirani, c'est une opération qui nous concerne tous et que tout le monde doit s'approprier pour éradiquer les phénomènes banditisme dans la ville de Beni en général et en particulier à la commune de Bungulu. Donc nous appelons les jeunes à la vigilance et cette opération évidemment consiste à surveiller le mouvement de toute personne et une fois vous avez des informations, il faut aussi alerter les autorités compétentes pour qu'ils s'en chargent de la situation.
Restons à Beni pour signaler que l'école primaire Mwangaza, située dans la commune rurale de Oicha, dans le quartier Masosi, est dans le risque de se transformer en un camp de déplacés. Les responsables de cette école s'inquiètent des conséquences d'occupation de cette école par ces déplacés sur le plan sanitaire et éducationnel. Ils plaident pour la délocalisation de ces déplacés. Jean-Claude Lowe qui nous fait le point.
Les 21 des salles de classe de l'école primaire Mwangaza servent la journée pour les écoliers, la nuit des dortoirs pour les déplacés venus de plusieurs entités du territoire de Beni, même ceux de Mambasa et d'Iromo. Ici, les élèves se bousculent avec les déplacés chaque matin, les obligeant de libérer leur salle de classe. Une crainte pour les responsables de cette école qui plaident auprès du gouvernement pour délocaliser ces derniers dans un site approprié. Kasereka Samunani, directeur adjoint de l'école primaire Mwangaza.
Une fois nous sommes à la fin des cours, les enfants partent. Les déplacés aussi récupèrent les salles de classe. Ça impacte sur l'éducation des enfants négativement encore. Parce que vous voyez, un enfant qui quitte chez lui à la maison, il entre dans sa salle de classe, il trouve des ustensiles de cuisine, il trouve des matelas, et surtout sur les plats sanitaires. Avec les latrines que nous avons, nous les utilisons et les déplacés et les enfants. Alors, en attendant que le gouvernement fasse son travail, nous demandons à ce que ces déplacés soient cantonnés dans des sites quelconques pour que les enfants se sentent aussi libres dans les salles de classe.
Pour le responsable de ces déplacés, le gouvernement doit fournir les efforts afin que la paix revienne dans leur milieu d'origine. Le bourgmestre de la commune rurale de Oicha qui dit connaître cette situation indique que les plaidoyers sont en cours pour la délocalisation de ces déplacés alors que les uns sont déjà accueillis dans des familles d'accueil.
Le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu dénonce ce qu'il qualifie d'injustice politique dont sont victimes certains députés provinciaux. Maître Jean-Paul Lumbulumbu dit ne pas comprendre que dans une province en état de siège, certains sont interdits d'organiser des activités politiques alors que d'autres le peuvent. Il cite le cas du député provincial Didier Louko, arrêté à Kamandi en plein meeting l'année dernière. Il parle également de son cas où il aurait été objet de menaces pour ses opinions politiques. Cet élu de Lubero parle d'injustice et de discrimination lors de l'exercice des mêmes droits et libertés politiques. Pour lui, autant il est autorisé aux députés nationaux d'organiser des matinées populaires et politiques en province, bien qu'en état de siège, il devrait en être autant pour les députés provinciaux. On écoute le député Jean-Paul Lumbulumbu.
Dans un pays qui veut appliquer véritablement le principe de l'état de droit, nous ne pouvons pas cautionner l'application de la politique de deux poids deux mesures. Il est inadmissible et impensable que dans une province où l'on sait être dans un régime exceptionnel de l'état de siège, que les autorités de l'état de siège accordent l'exercice des droits et libertés politiques à un certain nombre d'acteurs, parce qu'ils viennent de Kinshasa ou je ne sais pas d'où encore, mais que d'autres qui ont la même qualité, qui ont été élus, puissent être victimes d'une injustice et de la discrimination lors de l'exercice des mêmes droits, libertés politiques. Combien de députés provinciaux n'ont-ils pas été interpellés, arrêtés, tout simplement parce qu'ils ont tenté de tenir un petit meeting dans leur circonscription? Mais nous voyons les honorables députés nationaux, c'est pas Vané au Nord Kivu, organiser des meetings, des matinées politiques comme bon les semble, sans que ces derniers soient inquiétés par les autorités de l'état de siège.
Contacté, le porte-parole du gouverneur déclare qu'il revient à l'autorité provinciale d'apprécier sur l'opportunité de ses activités politiques. Le général Sylvain Ekenge précise cependant qu'aucune activité politique autorisée et organisée dans une salle n'a été objet d'une interdiction. Santé. La zone de santé de Beni a totalisé mardi 21 jours depuis la déclaration de la 15e épidémie d'Ebola. Le médecin chef de cette zone de santé, le docteur Michel Tosalisana, affirme que le décompte continue jusqu'à totaliser 42 jours. Si aucun autre nouveau cas n'est enregistré en l'espace de ces 42 jours, il sera déclaré la fin de l'épidémie dans la zone. Rappelons que jusqu'à ce jour, c'est l'unique premier cas décédé à l'hôpital général de référence de Beni qui a été notifié. Au moins 170 cas contacts avaient été également identifié et suivi par les équipes de riposte. La même source ajoute que les activités de vaccination se poursuivent notamment. Direction la province du Maniema. Les acteurs éducatifs de la province éducationnelle Maniema 1 s'engagent à lutter contre les antivaleurs. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion de restitution des assises de la revue annuelle des performances nationales 2022 tenue à Kinshasa du 29 au 31 août dernier. Réunion qui s'est tenue hier jeudi dans l'amphithéâtre de l'université Mapon. Yoy Bokete Jean-Pierre, directeur de cette province éducationnelle, appelle à la responsabilité de tout un chacun dans le souci de redresser leur système éducatif. On écoute au micro de Florence Kiza.
Je pense que tous les acteurs de la province éducationnelle Maniema 1 ont été vraiment soulagés de cette restitution et ils ont pris l'engagement ferme de travailler la main dans la main en vue de fédérer autour de son excellence monsieur le ministre enseignement primaire, secondaire et technique pour redresser les sous-secteurs. Et nous avons pris l'engagement aujourd'hui de mettre fin aux anti-valeurs dans notre province éducationnelle. Bon, je pense que ce qui nous a été recommandé de Kinshasa, c'est tout simplement des travaux bien faits tout en respectant les textes légaux et réglementaires qui régissent le bon fonctionnement de notre système éducatif, la consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Et c'est pour cette raison que tous les acteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique réunis au bon cadre de l'université Mapon, nous avons pris l'engagement désormais de nous mettre au travail, bien fait, dans le souci de redresser notre système éducatif, de consolider, de pérenniser la gratuité et de lutter contre les antivaleurs.
Un analphabète, c'est lui qui ne sait pas intégrer la logique d'apprentissage. C'est ce qu'a déclaré Moïse Ediman, enseignant et coordonnateur de l'ASBEL Toyekola, entendez à prénom. Il a dit hier à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année, Moïse Ediman a été joint par Kelly Yoka.
Il y a des faits qui considèrent qu'analphabète, c'est lui qui ne sait pas lire ni écrire. Il y a aussi des ceux-là qui considèrent d'analphabète, c'est lui qui ne réfléchit pas très bien. Et encore, réfléchir très bien, c'est un autre débat. Mais en tout cas, nous, par rapport à notre philosophie, on dit est analphabète. C'est lui qui ne sait pas intégrer la logique d'apprendre. C'est-à-dire que lorsque on sait déjà apprendre, on ne peut plus dire qu'on est analphabète parce que même l'alphabétisation en question est intégrée facilement. On peut apprendre l'alphabétisation. Donc le problème, c'est au niveau des prérequis. Donc quand on n'a pas les prérequis pour apprendre, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que non, cette personne est analphabète.
Actualité internationale. L'actualité dans le monde reste marquée par le décès de la reine Elisabeth II. Décès survenu jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Son état de santé s'était fortement dégradé. Un an après avoir passé une nuit à l'hôpital pour des raisons jamais précisées, la monarque avait fêté en juin dernier son jubilé de platine et tout au long de ses 70 ans de règne, elle a entretenu des liens étroits avec le continent africain notamment. Prince de Galles pendant 64 ans, Charles III devient ainsi roi à l'âge de 73 ans.
L'invité.
Le conflit interethnique entre les peuples Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut, province de Maïndombe, devient de plus en plus inquiétant. Plusieurs personnes ont été contraintes de quitter leur village pour aller se réfugier à des endroits sécurisés, se déplacer, vivre dans des conditions difficiles et sans assistance. Quelle analyse faire de cette situation? Que faut-il faire dans l'urgence pour stopper le cycle des violences? Pour en parler, nous recevons Gary Sakata, élu de la circonscription électorale de Bagata. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Professeur Gary Sakata, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes député national élu de la circonscription électorale de Bagata. Quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement ou en ce moment dans votre entité?
Depuis quelques mois, les populations Yaka et Teke qui jadis vivaient pacifiquement commencent brusquement à s'entretuer. Cette situation est très surprenante, surtout pour nous qui sommes les représentants du peuple. Et malgré le passage d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ainsi que le ministre des Affaires sociales, cette situation ne fait que s'envenimer. Parce que au moment où je vous parle, il y a plus de 1000 personnes qui ont quitté les villages de Menko, Bisiala, Mbunsia, qui se trouvent dans les territoires de Kwamut, ont traversé la rivière Kwango et dorment à la Belle Étoile dans les villages de Fambondo, de Fasila et de Fatobo, sans aucune assistance ni du gouvernement central, ni du gouvernement provincial. Et plus grave encore, depuis mercredi 7 septembre 2022, les militaires qui avaient été envoyés pour sécuriser le plateau des Bateke ont capitulé en traversant la rivière Kwango et se trouvent actuellement dans la cité, les chefs-lieux du secteur de Wamba à Fatundu. Donc 12 militaires, après avoir vu que leurs collègues, une vingtaine, ont été tués, eux, sans munitions, sans équipement, n'ont eu la vie sauve qu'en prenant la poudre des scampettes. Mais il ne fuit pas parce qu'ils sont sans force ou parce qu'ils ne sont pas formés, mais non. Mais c'est parce qu'ils manquent de munitions, ils n'ont même pas des rations et ils se promènent même à pied.
Alors quel est le sort de ces militaires qui se sont sauvés de justesse, selon vous, et qu'est-ce qu'il faudra faire?
Je disais qu'il y a 12 militaires qui ont pris la fuite, qui sont à Fatundu, et dont le gouvernement central et le gouvernement provincial doivent aider à ramener vers la ville de Bandundu, parce que si on les laisse à Fatundu, comment vont-ils vivre? Ils vont commencer à faire des dégâts. Et même si on les laisse partir à pied jusqu'à Bandundu, c'est Fatundu, Bandundu, nous sommes à peu près à 150 km. Donc ils risquent de faire des dégâts en route, parce qu'ils chercheront la ration pour survivre. Donc le gouvernement provincial est invité de manière urgente à ramener ses militaires dans la ville de Bandundu et d'équiper de nouveaux militaires pour le renvoyer au plateau des Pateke en vue d'imposer la paix.
À vous entendre, professeur, la situation est préoccupante. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire dans l'urgence pour que ces conflits ne puissent pas dégénérer?
Le gouvernement central et provincial doivent, dans les meilleurs délais, identifier la source et le nœud de ce problème, le nœud de ce conflit. Parce qu'apparemment, j'ai comme l'impression à suivre les événements que le gouvernement est en train de tâtonner. Parce que, dites-moi un peu, s'il ne s'agissait que d'un conflit entre Teke et Yaka, ce serait quand même surprenant que même l'armée soit mise en déroute. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Mais le deuxième aspect, il faudrait que le gouvernement central et le gouvernement provincial organise en imminence un grand forum de leaders du Grand Bandundu à laquelle on doit associer la société civile des milieux concernés. Je suggère également au gouvernement d'imposer la paix par la force en équipant les militaires par des armes et munitions. Parce que il faut craindre que ce conflit puisse s'étendre dans tout le Grand Bandundu. Mais dites-moi un peu, monsieur le journaliste, si le gouvernement central ne sait pas imposer la paix à 100 km de Kinshasa, cela m'inquiète sérieusement sur notre sécurité commune.
Vous êtes élu du peuple. Quel message avez-vous à adresser à la population pour ne pas enflammer davantage cette situation?
Alors moi, je demande aux populations vivant le plateau de Bateke, dans les territoires de Kwamut, principalement les populations Teke qui sont majoritaires, Yaka qui viennent ensuite, ainsi que toutes les autres populations, il y a les Bangala, il y a les Yansi, il y a les Mbala, de continuer à vivre dans l'harmonie, qui ne se laissent pas manipuler parce que après cette manipulation, ils savent même plus aller au champ, qu'elles se mettent ensemble pour construire le pays et cela fera le bonheur de tout le monde.
Professeur Gary Sagata, je vous dis merci.
Le député national élu de la circonscription électorale de Bagata s'entretenait avec Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungmushinj, mise en onde de Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis.